monter un peu. Bonjour à tous. Comme ça a été précisé, je m'appelle Mathieu, je suis étudiant à la faculté de Vaux-sur-Seine et aussi stagiaire à l'église évangélique baptiste de Lyon. Donc je vous salue de la part de l'église de Lyon. Merci beaucoup pour votre invitation, c'est vraiment une grâce et un honneur, un privilège pour moi d'être devant vous. Et j'ai vraiment apprécié ce culte, j'étais venu une fois au mois de juillet pour ceux qui se souviennent, ceux qui étaient là. Et c'est avec plaisir que je suis de retour. Voilà, je viens au secours des pasteurs qui se cassent le bras. Le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Donc, voilà. Je suis le fils d'un homme originaire de Grande-Bretagne et donc j'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps au Royaume-Uni. Il y a une dizaine d'années, j'étais dans le métro avec mon père. On avait l'habitude de prendre le métro tous les jours à Londres. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, en tout cas d'étonnant, dont je me souviendrai toute ma vie. Mon attention a été attirée par une femme qui était assise en face de nous ce jour-là. Elle était en train de rabrouer son fils, et je me souviendrai toujours de ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit « Who do you think you are, boy? Who do you think you're talking to ?» Elle lui a dit « Mais pour qui est-ce que tu te prends? À qui tu crois que tu t'adresses ?» En fait, elle était en train de vraiment le rabrouer sévèrement. Et mon père et moi, bon, peut-être pas très sympathique, nous nous sommes mis à rire, bien entendu. Et la femme a continué à disputer son fils. Beaucoup d'enfants pensent être le centre du monde et manquent de respect à leurs parents. Et parfois, il faut les remettre à leur place, même si ça ne fait pas plaisir en tant que parent. Et ce qui est vrai des petits, ce qui est vrai des enfants, est aussi vrai de chacun d'entre nous. Parfois, nous avons besoin d'être remis à notre place. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un texte où on voit que Dieu va remettre à sa place un roi. Je vous invite à prendre vos Bibles en Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Nous allons lire dans la version du Semeur. Je ne sais pas comment vous faites ici, moi j'ai l'habitude en général de lire tout le texte, mais là c'est un petit peu long, donc on va lire au fur et à mesure plutôt. Daniel, dans l'Ancien Testament, le chapitre 4. Avant de nous plonger dans ce texte, je vous propose de revenir brièvement sur le contexte du livre de Daniel. Le livre de Daniel se situe après la division de la monarchie. Vous vous souvenez, il y avait eu David, il y a eu Salomon, et ensuite le royaume s'est divisé. Et à la suite de la division du royaume, il y a eu toutes sortes d'événements qui ont mené, à cause du péché d'Israël, à l'exil, l'exil babylonien. Et le livre de Daniel se situe à cette période où les Judéens ont été exilés, les élites de la nation ont été exilées. Daniel et ses amis, qui sont un petit peu les élites intellectuelles de la nation, ont été transportés à Babylone. Au chapitre 1, on voit que Daniel, qui est encore très jeune, eh bien, il est mis en quelque sorte en exil par le roi Nabucodonosor. Le chapitre 4, que nous allons aujourd'hui étudier, est assez différent des trois premiers chapitres. Dans les trois premiers chapitres, l'auteur du livre de Daniel prend le point de vue des exilés. Tandis que dans le quatrième chapitre, l'auteur du livre de Daniel prend le point de vue de l'oppresseur, de Nabucodonosor. Qui est Nabucodonosor? Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec ce personnage. Eh bien, c'était le roi de Babylone. Il était à la tête de l'empire babylonien, à l'apogée de son règne. On peut dire que c'était l'homme le plus puissant du monde à son époque. On pense aujourd'hui, par exemple, à Donald Trump. Imaginez Donald Trump, mais en encore plus méchant et en encore plus puissant. J'ai pas dit qu'il était méchant, j'ai dit encore plus. Je ne fais pas de politique dans l'église. Au verset 1, si vous regardez le verset 1, nous voyons que tout semble rouler pour Nabucodonosor. Il vit une vie paisible dans le luxe, le raffinement de son palais. C'est lui-même qui parle. Regardez, verset 1. Moi, Nabucodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et je jouissais de la prospérité dans mon palais. Mais il y a un mais. Quelque chose à venir troubler sa vie si paisible. si tranquille. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vous propose d'étudier ce texte en quatre points. Premièrement, le trouble du roi dans les versets 2 à 24. Deuxièmement, l'orgueil du roi dans les versets 25 à 27. Troisièmement, l'humiliation du roi dans les versets 28 à 30. Et enfin, quatrièmement, le culte du vrai roi dans les versets 31 à 34. Le trouble du roi, l'orgueil du roi, l'humiliation du roi et le culte du vrai roi. Nous allons commencer par le trouble du roi, à partir du verset 2. Il y a des moments comme ça dans la vie où tout semble rouler. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, famille, travail, église, vacances, tout va bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, si j'ose dire. Et dans ces cas-là, on est tenté, de se croire au contrôle de notre propre vie. On est tenté de se dire, voilà, j'ai bien travaillé, j'ai mérité ce que j'ai. Tout ce qui m'arrive, c'est grâce à mes propres forces. Et c'est un petit peu le cas de Nabucodonosor au début de notre texte. L'homme moderne est très très fort dans ce domaine. Il se croit indépendant, autonome, fort et puissant. C'est ce qu'on appelle l'illusion du contrôle. Et puis, il y a toujours un grain de sable qui vient briser un petit peu cette mécanique. S'il y a quelque chose de commun à toute l'humanité, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit puissant ou misérable, c'est que tôt ou tard, quelque chose va venir troubler notre bonheur. Que ce soit le chômage, que ce soit la maladie, que ce soit le divorce, ou même un rêve. Et c'est ce qu'on va voir à partir du verset 2. Regardez le verset 2. J'ai alors fait un rêve qui m'a rempli d'effroi. Les pensées qui m'ont hanté sur mon lit, les visions de mon esprit m'ont épouvanté. En l'espace d'une nuit, Nabucodonosor est passé de la tranquillité à l'effroi. Tout son bonheur était menacé, toute sa richesse ne lui servait à rien. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas au contrôle de sa vie, il n'était même pas au contrôle de son sommeil. En tant que lecteur moderne du texte biblique, on peut être tenté de se dire, il a fait un cauchemar, c'est pas grave qu'il aille se recoucher, hein. C'est pas un enfant, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit à nos enfants, t'as fait un cauchemar, va te recoucher. Mais seulement dans le contexte du Proche-Orient ancien, les rêves avaient une signification tout à fait particulière. Les rêves étaient souvent considérés comme prémonitoires. Vous savez ce que c'est un rêve prémonitoire? C'est un rêve qui dit l'avenir. Par exemple, j'ai fait un rêve cette nuit que je vais être millionnaire. Non, c'est pas vrai. Beaucoup de savants étaient grassement payés par les rois, justement, pour interpréter les rêves, parce que les rois pensaient ainsi connaître leur avenir. Et c'est ce que l'on voit au verset 3 et 4. Nabucodonosor convoque toute sa clique de mages, de devins et d'astrologues. Nabucodonosor convoque toutes ces personnes, ces savants, ces mages, ces devins, ces astrologues, pour essayer de percer le mystère de ce rêve. Et à ce sujet, je trouve qu'il est vraiment frappant de voir que le livre de Daniel, un livre qui date d'il y a près de 2500 ans, est d'une actualité étonnante. Aujourd'hui encore, lorsque nos contemporains sont troublés, lorsque nos contemporains veulent percer les mystères de la vie, lorsque nos contemporains veulent découvrir leur avenir, vers qui est-ce qu'ils se tournent? Vers les mages, vers les devins, vers les astrologues. Ils cherchent ainsi à retrouver un petit peu de contrôle sur l'existence. Ils cherchent ainsi à maintenir l'illusion du contrôle, à se dire « je suis au contrôle de mon avenir ». À votre avis, combien rapportent les activités occultes chaque année en France? Combien? On va voir si vous êtes plus généreux ou moins généreux que l'église de Lyon, parce que j'ai fait le même message. Alors combien? Dites un chiffre.
3 milliards.
3 milliards. Bravo. Ah, vous êtes beaucoup plus fort qu'à Lyon, hein, je vais leur dire. Hein. 3 milliards. D'après l'INAD, l'Institut National des Arts Divinatoires, les activités occultes rapportent environ 3 milliards d'euros par an en France. 3 milliards d'euros, vous vous rendez compte? 3 milliards d'euros. L'homme n'a pas changé. Il se pose toujours les mêmes questions. Et il s'illusionne toujours autant. Cependant, aujourd'hui comme hier, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Regardez la fin du verset 4. Je leur ai exposé le rêve, mais ils n'ont pas pu m'en faire connaître l'interprétation. Ils n'ont pas pu m'en faire connaître l'interprétation. Aujourd'hui comme hier, les mages, les astrologues, les devins sont incapables de répondre à nos questions. Ils n'ont aucune solution au problème humain. Dans le meilleur des cas, ce sont des charlatans qui vont se faire une fortune sur notre dos, et dans le pire des cas, ce sont des serviteurs de Satan qui détruisent leurs victimes. Alors si les voyants sont malvoyants, si j'ose dire, que faire? Nabucodonosor n'a plus d'autre choix que de se tourner vers Daniel. Daniel, dont il connaît la réputation, Daniel, dont il a vu l'efficacité redoutable. Regardez le verset 5 et 6. À la fin, s'est présenté devant moi Daniel, appelé aussi Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu. Au chapitre 1, Nabuchodonosor avait renommé Daniel. L'esprit des dieux saints réside en lui. Je lui ai raconté mon rêve et je lui ai dit, Belshazzar, chef des mages, je sais que l'esprit des dieux saints réside en toi et qu'aucun mystère n'est trop difficile pour toi. Écoute donc les visions que j'ai eues dans mon rêve et donne-moi-en l'interprétation. Vous remarquerez que Nabuchodonosor flatte un petit peu l'orgueil de Daniel. Mais pour autant, il ne prend pas son Dieu au sérieux. Dans le chapitre 1, Nabuchodonosor a fait voler les objets du temple à Jérusalem pour les mettre dans le temple de son dieu à Babylone. Et c'était une manière de dire que les dieux babyloniens avaient gagné sur le dieu d'Israël, Yahweh. C'était une manière d'humilier le dieu d'Israël. Et même si ce texte se situe plusieurs dizaines d'années après, on a l'impression que son attitude n'a pas changé. Pourquoi ? D'abord parce qu'il appelle Daniel Belshazzar et il précise d'après le nom de mon dieu, d'après le nom de son dieu païen. Ensuite, il parle de l'esprit des dieux plutôt que de l'esprit de Dieu. Et dans le contexte, on comprend bien qu'il s'agit d'une vision du monde polythéiste. Nabuchodonosor est polythéiste, il croit en plusieurs dieux. À ses yeux, le dieu de Daniel n'est qu'un dieu parmi d'autres dieux. Il n'est pas le seul vrai dieu. Cette mentalité polythéiste se retrouve chez beaucoup de nos contemporains. Si vous faites un sondage, en France, la plupart des gens vont dire qu'ils sont agnostiques, ou ils sont athées, ou ils sont peut-être chrétiens non pratiquants. Mais dans la réalité, la plupart de nos contemporains sont polythéistes. Aux yeux de beaucoup, le Dieu de la Bible n'est qu'un Dieu parmi tant d'autres, qui sans doute n'existe pas. Et j'ai envie de dire, Dieu est mort, vive les dieux. Aujourd'hui, nos contemporains se donnent des dizaines de divinités. Une multitude de dieux qui s'appellent technologie, sexualité, pouvoir, argent. Et ils sont prêts à tout dépenser pour ces dieux-là. Vous avez des gens qui vont tous les samedis au temple, à Auchan, pour offrir un sacrifice au dieu consommation, par exemple. Et de la même manière, tous ces gens qui consultent les astrologues. Voilà donc une société polythéiste, comme à l'époque. L'homme n'a pas changé. Nous ne sommes pas plus rationnels ni plus intelligents qu'à l'époque de Nabuchodonosor. Mais revenons-en justement à Nabuchodonosor. Regardez les versets 7 à 14. Dans les versets 7 à 14, Nabuchodonosor va décrire ce rêve si troublant. Dans son cauchemar, il a vu un immense arbre au feuillage magnifique qui recouvrait la terre entière. Mais cet arbre est menacé d'être coupé. Verset 11. Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez son feuillage et dispersez ses fruits. Si Nabuchodonosor est si troublé que cela, à mon sens, c'est parce qu'au fond de lui-même, il a compris la signification du rêve. Il avait saisi l'interprétation du rêve. Indice non négligeable, dans le Proche-Orient ancien, l'arbre était un symbole de la royauté, l'arbre était un symbole du pouvoir. C'est dans la Bible, par exemple, en Ézéchiel, chapitre 31. Par conséquent, couper l'arbre indiquait clairement que sa royauté était en danger. Pour enfoncer le clou, les versets 13 à 14 sont assez explicites. Regardez, on va les relire. Cet homme perdra la raison et se prendra pour une bête jusqu'à ce qu'ait passé 7 ans. Ces 100 ans, c'est un degré de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que tous les êtres vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il accorde la royauté à qui il veut et qu'il établit roi le plus insignifiant des hommes. À titre personnel, je crois que Nabuchodonosor était dans le déni. Il savait ce qui l'attendait, mais il avait peur. Au fond, il savait pertinemment que ce rêve était une menace, mais il se refusait à l'admettre. Même le plus grand des dictateurs sait qu'un jour il va perdre le pouvoir. Même le plus grand des présidents sait qu'un jour il sera déstabilisé. Mais il refuse de l'admettre. De la même manière, la plupart de nos contemporains savent que la souffrance et la mort rôdent. Mais ils font comme si de rien n'était. Les êtres humains, et nous en sommes, ont une impressionnante capacité à se mentir à eux-mêmes. Le philosophe chrétien Blaise Pascal a écrit dans ses Pensées, « Les hommes, n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de ne point y penser. » Pascal affirme que le divertissement est une fuite de la réalité. Le divertissement est une fuite de la réalité. C'est une forme de déni, mais tôt ou tard, la vérité finit par éclater. Et parfois, on a besoin d'entendre cette vérité au travers d'un tiers, parce qu'on n'arrive pas à l'admettre par nous-mêmes. Et c'est ce qui arrive à Nabucodonosor. Ce tiers, en l'occurrence pour lui, c'était Daniel. Regardez le verset 16. Alors Daniel, nommé aussi Belshazzar, demeura un moment interloqué. Ses pensées l'effrayaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et son explication ne t'effraient pas. Daniel a été convoqué pour interpréter le rêve, et il a tout de suite compris, contrairement à Nabucodonosor. Mais il est troublé. Et son trouble devrait aussi nous troubler. C'est assez étonnant parce que le rêve, au fin de compte, ne le concerne pas. Dans les trois premiers chapitres, sa vie a été menacée à Daniel. Et pourtant, jamais le narrateur ne nous dit qu'il a été troublé. Et là, alors que c'est son ennemi, le roi qui l'a exilé, il est troublé. Étonnant, n'est-ce pas ? Aussi étrange que soit sa réaction, nous allons voir qu'elle est très, très importante. Nous avons beaucoup à apprendre de la manière dont il réagit avec le roi. C'est un bel exemple de témoignage d'un croyant envers un non-croyant. Nous allons lister quatre attitudes que Daniel a dans son témoignage, que nous pouvons imiter. Quatre attitudes que Daniel a dans son témoignage face à Nabucodonosor et que nous pouvons imiter. Premièrement, il a peur. Il est interloqué. Et de la même manière, alors peut-être au Blanc-Ménil c'est différent parce que vous êtes des chrétiens qui ont un niveau de sanctification bien avancé. Mais en tout cas, dans mon expérience, la plupart des chrétiens que je rencontre ont un petit peu peur à l'idée de témoigner, n'est-ce pas ? De la même manière, Daniel a peur. Daniel a peur. C'est un bel exemple pour nous. La Bible nous déculpabilise. Si Daniel, qui était si courageux, si Daniel, qui était prêt à affronter la persécution, a eu peur, alors à combien plus forte raison, nous aussi, nous pouvons être interloqués. Premièrement, Daniel a eu peur. Mais deuxièmement, si Daniel est interloqué, c'est parce qu'il a de la compassion pour Nabucodonosor. Regardez la fin du verset 16. « Mon Seigneur, répondit Belshazzar, je souhaiterais que ce songe s'applique à tes ennemis et sa signification à tes adversaires. » Voyez avec quel respect, mon Seigneur, et avec quelle compassion Daniel s'adresse à Nabucodonosor, ce roi qui l'avait exilé encore une fois. On aurait pu s'imaginer que Daniel fasse preuve de triomphalisme, qu'il lui dise « Bah voilà, tu m'as humilié, tu m'as persécuté, maintenant, la roue tourne, c'est ton tour, tu vas souffrir, bien fait pour toi !» Et on aurait pu le comprendre. Mais non, Daniel a fait preuve de compassion, d'amour, de grâce envers son oppresseur, envers ce roi qui l'avait exilé. De la même manière, notre motivation lorsque nous discutons avec des non-croyants ne doit pas être de les humilier, ne doit pas être de gagner un débat, ne doit pas être de prouver que nous avons raison et qu'ils ont tort. Mais nous devons avoir de la compassion, de l'amour pour les non-croyants. Premièrement, Daniel a eu peur. Deuxièmement, Daniel a eu de la compassion. Troisièmement, Daniel n'a pas laissé sa compassion prendre le dessus. Il s'est montré franc. Il n'a pas passé par quatre chemins pour annoncer la vérité. On a parlé de vérité aujourd'hui dans ce culte. Lisons les versets 19 à 22, si vous voulez bien. C'est Daniel qui parle. « Cet arbre, roi, c'est toi, car tu es devenu grand et puissant. Ta grandeur s'est accrue, elle a atteint le ciel, et ta domination s'étend jusqu'aux confins de la terre. Le roi a ensuite vu l'un de ceux qui veillent un saint, c'est probablement un ange, descendre du ciel et crier, « Abattez l'arbre et détruisez-le. Laissez toutefois en terre la souche avec les racines, mais liez-les de chaînes de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'ils soient trempés de la rosée du ciel et qu'ils se nourrissent d'herbe avec les animaux des champs jusqu'à ce que 7 ans aient passé. » Voici ce que signifie au roi ce songe. Il s'agit là d'un décret du Très-Haut prononcé contre le Seigneur, mon roi. On te chassera du milieu des humains et tu vivras parmi les bêtes des champs. On te nourrira d'herbe comme les bœufs et tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras dans cet état pendant 7 ans jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui lui plaît. Mais s'il en a ordonné de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. Daniel s'est montré franc. Il n'a pas caché la vérité à Nabucodonosor. Il aurait facilement pu édulcorer la vision. Il aurait facilement pu essayer d'arrondir les angles, mais il ne l'a pas fait. Combien de fois nous pouvons être tentés, nous en tant que chrétiens, d'édulcorer le message de l'Évangile ? On n'ose pas dire la vérité à nos amis non-chrétiens. On a peur de passer pour un rabat-joie, si jamais on parle de péché par exemple. Mais comment peut-on partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ si on ne partage pas la mauvaise nouvelle de l'humanité ? Jésus sauve, d'accord, mais Jésus sauve de quoi ? La bonne nouvelle ne se comprend que si nous connaissons la mauvaise nouvelle. La plupart de nos contemporains ne croient pas qu'ils ont besoin d'être sauvés, parce qu'ils ne se croient pas pécheurs. Comment leur annoncer que Jésus sauve si on ne leur dit pas la vérité ? Daniel nous montre un modèle. Il a surmonté sa crainte pour dire la vérité dans l'amour. Il a surmonté sa crainte pour dire la vérité dans l'amour, mais il ne s'arrête pas là. Quatrièmement, Daniel a appelé le roi à la repentance. Regardez le verset 24. « C'est pourquoi, ô roi, voilà mon conseil. Puisses-tu juger bon de le suivre. Détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. Mets un terme à tes injustices en ayant compassion des pauvres. Peut-être ta tranquillité se prolongera-t-elle. » Daniel s'est pas contenté de laisser le roi son désarroi et lui dire « Bah écoute mon pote, tu vas souffrir, débrouille-toi maintenant, je t'ai interprété le rêve. » Il lui a donné un conseil, et un excellent conseil, « Détourne-toi de tes péchés. » En un mot, Daniel a appelé Nabuchodonosor à la repentance. Daniel a appelé Nabuchodonosor à la repentance. Bien souvent, nous n'osons plus parler de repentance. Mais le message de Jésus-Christ appelle à la repentance. Jésus nous appelle à un changement de vie que l'on appelle la repentance. C'est exactement ce message qu'il a proclamé lorsqu'il a commencé son ministère terrestre. Matthieu 4, verset 17. Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude !» Littéralement, repentez-vous. « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. » Nous avons vraiment besoin, et moi le premier parce que je ne suis pas un modèle, mais nous avons vraiment besoin d'apprendre comment témoigner auprès de Daniel. C'est-à-dire d'apprendre à témoigner en surmontant notre crainte pour le faire avec compassion et franchise, en appelant à la repentance. Maintenant, Daniel a fait son rôle, il a joué son rôle, la balle est dans le camp de Nabuchodonosor. Que va-t-il faire ? Va-t-il se repentir ? Va-t-il accepter de s'humilier devant Dieu ? Ou va-t-il persévérer dans ses mauvaises voies ? C'est ce que nous allons voir maintenant, l'orgueil du roi. Relisons les versets 26 à 27. 12 mois plus tard, il se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone. Il prit la parole et dit « N'est-ce pas là Babylone la grande, que moi j'ai bâti pour en faire ma résidence royale ? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. » Les splendeurs de Babylone. Babylone. À l'époque de Daniel, était la ville par excellence, la plus belle, la plus riche, la plus fastueuse de toutes les capitales du monde. Connue dans le monde entier et admirée. Pour vous donner un exemple, les archéologues et les historiens relèvent que Nabuchodonosor, pour la Saint-Valentin de l'époque, avait offert à sa première épouse une des 7 merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone. C'est un fait historique authentique. Nabuchodonosor avait fait construire les jardins suspendus de Babylone pour sa première épouse. Je ne sais pas si les autres épouses étaient jalouses, mais en tout cas, pour la Saint-Valentin, il a été fort. Babylone, c'était quelque chose. Nabuchodonosor se promenait sur la terrasse d'un de ses 3 palais. J'ai fait des recherches historiques. Il avait en réalité 3 palais. Probablement son palais d'été parce qu'il est sur la terrasse, il fait chaud à Babylone. Et donc il prend le vent et il observe, il admire. On l'imagine en train de se bomber le torse, en train de regarder de haut cette ville. Un an a passé depuis la vision troublante. Et visiblement, le roi l'a chassé de son esprit parce que sa vie n'a pas changé. Nabuchodonosor était tellement occupé pendant ces 1 an à regarder les autres de haut qu'il n'a pas eu le temps de lever les yeux vers le ciel et vers Dieu. Il était devenu en quelque sorte immunisé par le péché, immunisé par le péché au message de Daniel. D'abord, il faut dire que Dieu pourtant avait été bon envers lui. Dieu avait été bon envers Nabuchodonosor. Premièrement, il l'avait mis à la tête du plus grand empire de l'époque. Deuxièmement, il lui avait octroyé un délai de grâce d'un an. Vous connaissez beaucoup de juges qui disent aux condamnés « Bon, écoute, tu as fait des choses terribles, mais je vais te laisser 1 an. Si tu changes d'attitude, tu seras libre. » Mais Dieu lui a fait grâce. Premièrement, il l'avait installé sur le trône de Babylone. Deuxièmement, il lui avait fait un délai de grâce. Et troisièmement, il lui avait parlé à de multiples reprises. Comme je vous l'ai dit, cela faisait des dizaines d'années que Daniel et ses amis étaient à Babylone, que Daniel et ses amis avaient un témoignage de la foi hébraïque. Mais Nabuchodonosor avait le cœur serré. Aucun roi de l'Ancien Testament, aucun roi païen de l'Ancien Testament n'avait eu autant de révélations de la part de Dieu, mais Daniel, mais Nabucodonosor avait le cœur serré. Nabucodonosor a choisi de se draper dans son autosuffisance. Vous vous souvenez de ses propos ? N'est-ce pas là, Babylone la Grande, que moi j'ai bâti pour en faire une résidence royale ? C'est par la grandeur de ma puissance et pour la gloire de ma majesté que j'ai fait cela. Mon. On dirait un enfant. Nabucodonosor est un homme moderne. Les hommes modernes pensent en termes de mais. L'homme, la femme moderne, est persuadé que son nombril est au centre de l'univers. L'homme moderne croit qu'il est au contrôle de sa vie, qu'il peut se bâtir un empire sans penser aux autres. L'homme moderne se croit indépendant et autosuffisant. Et on voit ça avec les réseaux sociaux. J'ai rien contre les réseaux sociaux, c'est une grâce de Dieu. On peut les utiliser pour la gloire de Dieu, on peut les utiliser pour rester en contact avec nos proches. Mais néanmoins, on voit la modernité. Les gens qui se prennent en photo, qui font les selfies, qui mettent des filtres. Après, quand tu les rencontres dans la rue, tu les reconnais pas. Et qui mettent ça sur Facebook, qui mettent ça sur Instagram pour s'enfler d'orgueil, pour que les gens mettent des likes. Bien, c'est la même chose que Nabucodonosor. C'est une société centrée vers le moi, centrée vers l'ego, centrée vers soi-même. À côté de chez moi, j'habite dans l'église baptiste de Lyon. Il y a une voie ferrée et il y a une publicité. Et cette publicité est la suivante. Croire en moi. Merci coach. C'est pour un club de fitness. Moi, j'en ai pas besoin, donc je suis pas allé. Comme je suis très sportif, n'est-ce pas ? Croire en moi. Voilà ce que le monde nous propose. Pour moi, cette publicité, elle capture l'esprit de l'âge. Croire en moi. Non pas croire en Dieu, mais croire en moi. Voilà ce que le monde nous propose, de croire en nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil, voilà le péché cardinal. L'orgueil est le péché qui a fait chuter Satan d'abord et Adam et Ève ensuite. En mangeant du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont choisi l'orgueil. Adam et Ève ont choisi l'autonomie. Adam et Ève ont choisi de croire en eux-mêmes, de croire à Satan plutôt que de croire à Dieu. L'orgueil nous fait oublier notre condition mortelle, nos limites humaines et notre besoin de Dieu. Et non seulement l'orgueil nous fait croire que nous n'avons pas besoin de Dieu, mais en plus il nous voile la face sur la réalité de notre condition de pécheur. En un mot, l'orgueil nous fait croire que nous sommes le roi de notre propre vie, que nous sommes le Dieu de notre existence. Sous l'Empire romain, un esclave était chargé d'aller voir les généraux victorieux qui rentraient à Rome pour leur conférer des maximes. Et il leur disait « Memento mori, rappelle-toi que tu es mortel. » Et il leur disait « Homo est, tu n'es qu'un homme. » Et il faisait ainsi afin que ses généraux ne prennent pas le pouvoir à Rome, ne s'enflent pas d'orgueil. Je me demande si on ne devrait pas faire la même chose aujourd'hui. La prochaine fois que quelqu'un publie un selfie sur sa page Facebook, vous pouvez mettre « Rappelle-toi que tu es mortel. » Non, ne le faites pas parce que sinon on va vous supprimer la liste d'amis et après j'aurai des problèmes. Mais néanmoins, il y avait une sagesse là-dedans. Nabucodonosor, l'homme moderne, ressemble au Titanic. Il se croit puissant, insubmersible, et pourtant il court à sa destruction certaine. Vous vous souvenez du film, tout le monde l'a vu, n'est-ce pas ? Je suis le roi du monde ! Et une demi-heure plus tard, glou 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 glou. Le bateau de l'ego va se briser sur l'iceberg de la réalité. Que nous soyons chrétiens ou non, que nous soyons riches ou pauvres, puissants ou misérables, si nous nous croyons au contrôle de notre vie, tôt ou tard, nous allons déchanter. Tôt ou tard, nous ferons naufrage. Si ce n'est pas dans cette vie, ça sera dans la suivante. Et c'est ce que nous allons voir, troisièmement, avec l'humiliation du roi. L'humiliation du roi. Nabucodonosor n'a même pas le temps de souffler que son rêve se réalise. Regardez les versets 28 à 30. Ses paroles étaient encore sur ses lèvres qu'une voix retentit du ciel. « Roi Nabucodonosor, écoute ce qu'on te dit. Le pouvoir royal t'est retiré. On te chassera du milieu des humains et tu vivras avec la bête des champs. On te nourrira d'herbe comme les bœufs. Tu seras dans cet état durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui lui plaît. » Au même instant, la sentence prononcée contre Nabucodonosor fut exécutée. Il fut chassé du milieu des hommes. Il se mit à manger de l'herbe comme les bœufs et son corps fut trempé par la rosée du ciel. Sa chevelure devint aussi longue que des plumes d'aigle et ses ongles ressemblaient aux griffes des oiseaux. Le temps de la patience de Dieu est écoulé. Et il va utiliser la manière forte pour le montrer à Nabucodonosor, pour remettre le roi à sa place. Contrairement aux apparences, c'est Dieu qui est au contrôle, c'est Dieu qui établit les rois, c'est Dieu qui renverse les rois, c'est lui qui humilie les orgueilleux et qui fait grâce aux humbles. Nabucodonosor, qui se croyait si fort et si puissant, va l'apprendre à ses dépens. Lui, l'homme le plus puissant du monde, va être humilié au-delà de l'imaginable. Lui qui regardait les autres de haut va se retrouver au niveau des vaches. Ce comportement étrange, qui consiste à se comporter comme un bovin, est en réalité une maladie, je ne sais pas si tu la connais, Sylvain, qui s'appelle la boanthropie. C'est une maladie psychique qui est aussi rare que redoutable. Se prendre pour un bovin. Quel renversement de situation. Le jugement de Dieu est terrible, mais juste. Et j'aime beaucoup ce que ce commentateur Brian Chappell nous dit dans son livre. Celui qui a refusé d'honorer la gloire de Dieu perd sa propre gloire. Celui qui a refusé de partager ses biens avec les pauvres devient plus pauvre que les pauvres. Il devient extérieurement ce que son cœur était intérieurement, bestial. Oui, je le crois, Nabucodonosor est devenu extérieurement ce qu'il était intérieurement, bestial. Et j'irai même plus loin, je dirais, Nabucodonosor est devenu extérieurement ce qu'il était intérieurement, fou. En réalité, mes frères, mes sœurs, le péché est une folie que des hommes et des femmes puissent penser vivre sans Dieu, ignorer leur Créateur et se prendre même pour Dieu est une folie. Un monde qui choisit délibérément d'ignorer Dieu est une folie. Dieu a livré le monde à la folie parce qu'il l'a rejeté. L'actualité, malheureusement, nous présente des exemples tragiques de cette folie du monde, tous les jours avec toutes les guerres, les conflits, les scandales. C'est vraiment triste. Mais parfois, il y a des exemples plus futiles qui sont tout aussi révélateurs. Il y a quelques semaines, une célèbre marque de pâte à tartiner a mis en place une promotion exceptionnelle. Je ne citerai pas de nom parce que on ne fait pas de publicité. Cette promotion a provoqué des quasi-émeutes dans les magasins, au point qu'on a ouvert une enquête. Les gens étaient prêts à en venir aux mains, les gens étaient prêts à se taper dessus, ils se sont tapés dessus pour un pot de Nutella. Dans quel monde on vit? Le monde est fou. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Mais revenons-en au roi. On est en droit de se demander, mais pourquoi Dieu livre Nabucodonosor à la folie? Quel est le but de Dieu? Est-ce que Dieu est un sadique? Est-ce que Dieu est quelqu'un qui va imposer une humiliation pareille pour le plaisir? Et c'est ce que nous allons voir dans les versets suivants. Regardez les versets suivants. La réponse est répétée à de nombreuses reprises. Nous allons simplement relire le verset 14 et aussi le verset 22. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il accorde la royauté à qui il veut et qu'il établit roi le plus insignifiant des hommes. Et ensuite, verset 22, « Tu seras dans cet état durant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui lui plaît. » En fait, nous avons affaire à un paradoxe. Oui, nous avons affaire à un paradoxe dans ce texte. En rendant Nabucodonosor fou, Dieu cherchait à lui rendre la raison. En l'humiliant, il voulait lui faire reconnaître sa souveraineté. Dieu voulait que Nabucodonosor reconnaisse que c'était grâce à lui qu'il était roi et qu'il lui rende la gloire qui lui était due. En un mot, Dieu cherchait à tuer l'orgueil de Nabucodonosor pour le mener à la repentance. En tant qu'image de Dieu, nous avons été créés pour refléter la gloire de Dieu. Mais le péché nous a fait rechercher notre vaine gloire humaine. Et parfois, Dieu nous remet à notre place pour que nous lui rendions la gloire, pour que nous comprenions que c'est lui qui est au contrôle. Et heureusement, il ne le fait pas d'une manière aussi brutale qu'avec Nabucodonosor. Mais il le fait pour notre bien. Il ne le fait pas parce que c'est un Dieu sadique, mais il le fait pour notre bien. Nabucodonosor est livré à la folie pour un temps, Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce d'abord en lui permettant de conserver son trône. Daniel avait précisé au verset 23 que la souche serait préservée, c'est-à-dire que la royauté lui serait rendue après cet épisode honteux. C'est un signe de la grâce de Dieu. Dieu aurait très bien pu donner ce royaume à un autre monarque, mais il a fait grâce. Et une fois le temps du jugement passé, Dieu va rendre la raison à Nabucodonosor. On ne sait pas combien de temps Nabucodonosor est resté dans cet état, 7 ans, certains disent 7 ans. On ne sait pas en réalité. En tout cas, assez longtemps pour avoir les cheveux qui poussent, les ongles qui poussent. Il a donc été humilié de manière parfaite. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Dieu a fait un jugement parfait contre Nabucodonosor et ensuite il va le restaurer. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Après les 7 ans, Dieu va rendre la raison à Nabucodonosor. Et à peine a-t-il retrouvé la raison que Nabucodonosor s'adresse à Dieu. Regardez les versets 31 et 32. « Je remerciais le Très-Haut, je louais celui qui vit éternellement, et je proclamais sa gloire. Sa souveraineté est éternelle, son règne dure d'âge en âge. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant lui, et il agit comme il l'entend, envers l'armée des êtres qui vivent dans le ciel et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui reprocher. Que fais-tu ?» Quel changement! Quel changement! On aurait pu s'attendre à ce que Nabucodonosor brandisse le poing devant Dieu et lui dise « Mais pourquoi tu m'as fait tant de mal? Pourquoi tu m'as humilié ?» Et non, il n'en fait rien. À peine a-t-il ouvert les lèvres qu'il donne la louange à Dieu. Un roi païen qui rend gloire au Dieu des Juifs, ce n'était pas tous les jours sous l'Ancienne Alliance. Nabucodonosor, remarquez-le dans cette prière, est passé de « ma, mon, mais » à « ta, ton, t'es » ou à « ça, son, c'est » plutôt. De la vaine gloire humaine à la gloire de Dieu. Et à ce titre, la prière de Nabucodonosor est remarquable. On aurait pu dire « Amen » à cette prière. Nous n'avons pas le temps de l'analyser, elle mériterait à elle seule une prédication, mais nous pouvons simplement relever quatre éléments. D'abord, Nabucodonosor confesse la souveraineté de Dieu. Ensuite, il lui confesse sa dépendance. Troisièmement, la justice de Dieu. Et enfin, quatrièmement, il confesse que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Nabucodonosor a appris la leçon. Il confesse tout ce que Dieu voulait lui apprendre. Pour Nabucodonosor, l'humiliation précède la restauration, puisqu'il retrouve sa royauté comme promis au verset 33. Dieu est fidèle même envers celui qui lui a été infidèle. Et de la même manière, si Dieu nous humilie pour un temps, c'est pour mieux nous restaurer. La repentance que Dieu exige de nous n'est pas simplement une affaire de morale, de c'est bien, c'est pas bien. Elle vise non seulement de rendre la gloire à Dieu, mais aussi la restauration du pécheur. Jean Calvin, dans l'Institution, écrit « La repentance est une régénération spirituelle dont le but est de restaurer en nous l'image de Dieu qui a été obscurcie par la transgression d'Adam. » Dieu a humilié Nabucodonosor pour mieux le restaurer, pour le remettre à sa juste place. Le roi humain donne enfin la gloire au vrai roi. Dieu restaure l'ordre des choses. Il est normal qu'il y ait des autorités, il est normal qu'il y ait des puissances dans ce monde, mais chacun doit être à sa place. Et si l'on y réfléchit, c'est ça le salut. Le salut, c'est un retour à l'ordre créationnel. C'est revenir à l'harmonie de la création telle qu'elle avait été conçue par Dieu. Dieu a remis à sa place Nabucodonosor. Il est roi, mais il est roi sous l'autorité d'un roi qui est plus grand que lui, sous l'autorité du Dieu des cieux. Dieu restaure l'ordre des choses. Au verset 34, comme à la fin du chapitre 3, nous voyons que Nabucodonosor reconnaît la souveraineté de Dieu, qu'il fuit l'orgueil, qu'il donne toute la gloire à son Créateur. L'histoire de Nabucodonosor est remarquable à bien des égards. Nous en avons tiré quelques applications. Nous avons vu la trajectoire d'un homme qui est passé de la vaine gloire humaine à la gloire de Dieu. Et son histoire, bien entendu, fait écho à celle de Jésus. Nabucodonosor n'était qu'un simple mortel qui se prenait pour Dieu. Jésus, lui, est Dieu qui s'est fait mortel. Nabucodonosor était un pécheur, tandis que Jésus était sans péché. Nabucodonosor vivait dans un palais, tandis que Jésus n'avait pas un endroit où reposer sa tête. Nabucodonosor n'avait pas de compassion, tandis que Jésus était rempli de compassion. Nabucodonosor s'est glorifié, tandis que Jésus s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à mourir à la croix. Nabucodonosor s'est exalté, il a été humilié. Et Jésus s'est humilié, il a été exalté. Voilà notre modèle, Jésus-Christ. Lui qui avait tout lieu de se glorifier, mais qui a donné toute la gloire au Père. Dans l'évangile selon Matthieu, certains commentateurs pensent que Jésus fait une allusion à Nabucodonosor. Au chapitre 13, voici ce qu'il dit. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle devient plus grande que les légumes et elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. La question qui se pose à nous ce matin est la suivante. Quel arbre allons-nous choisir ? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de Babylone, l'arbre de l'orgueil qui mène à la mort, ou alors l'arbre du royaume de Dieu, un arbre qui commence tout petit, mais qui grandit sans jamais être déraciné, un arbre de la vie éternelle, un arbre qui donne la vie et la vie en abondance. Dans son chef-d'œuvre, La Cité de Dieu, saint Augustin affirme « Deux amours ont fait deux cités ». L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. À quelle cité appartenons-nous ? La cité terrestre, Babylone, qui méprise Dieu, ou la cité céleste, la Jérusalem d'en haut, qui aime Dieu ? Si nous sommes chrétiens, ce matin, nous vivons à Babylone, mais nous appartenons à la Jérusalem d'en haut. Si vous n'avez pas encore accepté l'évangile, Dieu vous appelle ce matin. Dieu vous appelle à reconnaître sa souveraineté, à lui rendre la gloire qui lui revient. Dieu vous appelle à vous détrôner et à lui laisser la place sur le trône de votre vie. Dieu vous appelle à fuir Babylone et à choisir la Jérusalem d'en haut. Dieu vous appelle à vous détourner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour choisir l'arbre du royaume de Dieu. Dieu veut vous restaurer. Dieu veut vous transformer. Que nous soyons chrétiens ou non, il existe une certitude. La Bible affirme, et nous l'avons chanté, que Jésus va revenir bientôt pour faire descendre cette cité céleste, cette Jérusalem d'en haut, sur la terre. Ce jour-là, Babylone, Babylone la Grande va tomber. La cité des hommes va s'écrouler. L'orgueil humain va s'écrouler. Ce jour-là, tous les êtres humains, orgueilleux ou humbles, riches ou misérables, rois ou mendiants, devront reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. Ce jour-là, Dieu va faire pour le monde entier ce qu'il a fait pour Nabucodonosor. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes frères, mes sœurs, choisissons l'humilité. Refusons l'orgueil. Suivons l'exemple de Jésus. Reconnaissons que nous devons tout à Dieu et rendons-lui la gloire qu'il mérite. Laissons-nous transformer à l'image de Jésus de plus en plus. Humilions-nous. Et Dieu, le moment venu, nous exaltera.
Amen.
Amen. Nous allons prier. Père, merci parce que tu te souviens de quoi nous sommes faits. Nous ne sommes que de la poussière. Nous sommes, Seigneur, des hommes et des femmes fragiles et mortels. Mais pourtant, nous croyons si souvent être puissants et forts. Seigneur, aide-nous à ne pas accepter ces mensonges de notre société, à ne pas accepter ces mensonges de notre orgueil qui nous fait croire que nous sommes importants, qui nous fait croire que la gloire nous revient, qui nous fait croire que toi, tu n'as pas de place dans notre vie. Seigneur, aide-nous à te rendre toute la gloire. Seigneur, aide-nous à choisir l'humilité, à ressembler à Jésus-Christ qui s'est humilié dans cette vie terrestre jusqu'à la croix. Aide-nous, Seigneur, à vivre une vie sacrificielle pour toi et pour les autres. Et Seigneur, aide-nous aussi à témoigner à tous ceux qui ne te connaissent pas, par notre exemple, Seigneur, afin qu'ils te reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous ne voulons pas simplement lire de belles paroles, mais nous voulons suivre cet exemple que tu nous donnes dans ta parole. Aide-nous, transforme-nous à la ressemblance de Jésus-Christ pour la gloire de ton nom et le salut du monde. Amen.
Amen.